Chers élèves, nous allons lire ensemble la leçon d'histoire s'initier au Moyen-Âge à travers Charlemagne. Grand 1. Charlemagne et les débuts du système féodal. En 476, les Romains sont battus par les Francs. C'est la chute de l'Empire romain. La Gaule devient la France. Alors vous remarquerez que dans le mot France, on retrouve le mot franc, et c'est donc bien le peuple des Francs qui a donné son nom à notre territoire, la France, qui s'appelait auparavant la Gaule, ou la Gaule romaine, si vous préférez. Le plus emblématique, ça signifie le plus important, le roi le plus remarquable, celui dont on se souvient le plus. Le plus emblématique des rois des Francs était Charlemagne, sacré en l'an 768. Sacré en l'an 768, ça signifie qu'il a reçu sa couronne des mains du pape. Et qui est le pape? C'est le chef de l'Église catholique. En recevant sa couronne des mains du pape, eh bien ça signifie qu'il est reconnu par l'Église comme étant le roi légitime, celui qui a le droit d'être roi. Et en quelque sorte, ça signifie symboliquement que Dieu l'accompagne. Et comme à cette époque-là, tout le monde est chrétien dans cette région du monde, eh bien, tous ceux qui sont chrétiens suivent le pape et donc vont suivre Charlemagne, puisqu'il est sacré roi. Il réussit à agrandir considérablement son royaume, alors par des batailles, des guerres aussi. Il fut nommé empereur des Francs et des Romains en l'an 800. Alors, l'an 800, c'est une date facile à retenir. Pour Charlemagne, l'éducation était très importante. Il fit ouvrir un grand nombre d'écoles dans tout l'Empire et mit en place un nouveau programme scolaire. Ne pouvant régner seul sur l'Empire qui continuait à s'étendre, Charlemagne eut alors l'idée de déléguer son pouvoir et de partager ses terres. Alors déléguer son pouvoir, c'est-à-dire que ce sont d'autres personnes qui vont avoir une petite portion de son pouvoir et qui vont faire respecter l'ordre et la loi dans le territoire qu'il leur est confié. Parce qu'il partage ses terres. Donc il dit à des seigneurs, voilà, je te donne une petite partie de mon territoire, et en échange, tu feras respecter la loi, et tu m'obéiras aussi, pour que l'ensemble de l'Empire soit bien gouverné. Alors, il partage ses terres avec des seigneurs en échange de leur obéissance, des guerriers en échange d'aide pendant les guerres, et c'est ça le début d'une organisation de la société, appelée aussi système féodal. 2. Le système féodal, les trois ordres du système féodal. Durant tout le Moyen-Âge, la société française, c'est-à-dire le peuple français, l'ensemble des Français, était organisée autour de trois ordres. Ça signifie qu'il y avait trois catégories de gens. Ceux qui prient, c'est-à-dire les hommes d'église, qu'on appelait aussi le clergé. Alors, parmi ces hommes d'église, on trouve des prêtres, des évêques, par exemple. Ceux qui combattent, c'est-à-dire les princes, les seigneurs, les chevaliers, qu'on appelait aussi la noblesse. Et ceux qui travaillent, c'est-à-dire les paysans, les artisans et les commerçants. Alors, les paysans, ce sont ceux qui cultivent la terre ou qui élèvent des animaux. Les artisans, ce sont ceux qui fabriquent des objets. Les commerçants, ce sont des marchands qui vendent des objets aux gens. Les grandes découvertes. Ainsi organisée, la France se développa et fit de plus en plus d'échanges avec d'autres pays. Le commerce devint important. Alors le commerce, c'est lorsque l'on achète et que l'on vend des produits avec des marchands qui sont soit en France soit à l'étranger. Alors ces produits, ça peut être des objets fabriqués par les artisans, mais ça peut être aussi des denrées agricoles, par exemple du blé que les paysans font pousser. Et ces échanges, eh bien, on va les réaliser très très loin, jusqu'en Inde, parce que c'est là, en Inde, que se trouvent des épices qui sont assez recherchées, et qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas faire pousser, par exemple, en France. Alors évidemment, toutes ces marchandises se déplacent sur des routes terrestres, et comme à l'époque, il n'y a pas d'autoroute, ou il n'y a pas, par exemple, de train, eh bien, le temps de transport, le temps qu'il faut pour que ces marchandises reviennent d'Inde est très long. Pour que ça aille plus vite, le plus simple, c'est de prendre des bateaux. Alors on fait soit le tour de l'Afrique, soit on a affaire à d'autres intermédiaires, peut-être en passant par la Méditerranée, ou par exemple l'océan Indien. Tout ça est très long. Alors c'est en partie pour cela que certains vont imaginer de faire le tour de la Terre, car on commence à penser que la Terre est ronde, et que si on part avec un bateau vers l'océan Atlantique, et qu'on continue à naviguer toujours vers l'ouest, on finira par faire le tour de la Terre et à arriver jusqu'en Inde. Et donc c'est la raison pour laquelle Christophe Colomb est parti avec plusieurs bateaux pour ouvrir une nouvelle route commerciale en quelque sorte. Et lorsqu'il arrive en vue d'une terre, il pense être arrivé en Inde, et en fait il est arrivé dans un nouveau continent qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle l'Amérique. Donc je peux lire, en même temps, la connaissance du monde s'élargit grâce aux explorateurs et leurs voyages en bateau. De grandes découvertes géographiques eurent lieu, comme la découverte du continent américain par Christophe Colomb. Cet événement marqua la fin du Moyen-Âge.